Voilà, ce soir, je voudrais vous parler donc de la conversion dans une double dimension. D'abord, dans son enracinement baptismal, d'une part, c'est un premier point, et ensuite, dans sa dimension de combat spirituel. En quoi la conversion, pour un chrétien, l'amène, l'oblige à accepter, à traverser, à gagner des combats spirituels. Donc, premier point, le baptême, lieu de la conversion première et fondamentale du chrétien. Nous avons déjà eu une soirée sur le baptême, vous vous rappelez ? Il est bon d'y revenir aujourd'hui parce que, au fond, notre conversion s'enracine dans le baptême. Le baptême remet tous les péchés, le péché originel et tous les péchés personnels. Mais il est vrai que demeure en nous, demeure dans le baptisé, certaines conséquences du péché. La souffrance, la maladie, les faiblesses de caractère, la mort, bien sûr. Et aussi, une inclination au péché, ce qu'on appelle traditionnellement la concupiscence. Parfois avec un sourire, mais la concupiscence, en fait, c'est quelque chose de bien réel. C'est l'inclination au péché qui demeure en nous, même après le baptême. Alors, positivement, le baptême donne la filiation divine. Nous devenons fils du Père, frères et disciples de Jésus, temple du Saint-Esprit, et nous recevons deux grands dons. D'une part, les vertus théologales, ces vertus qui sont directement orientées vers Dieu, la foi, l'espérance et la charité, sont des vertus qui, en quelque sorte, nous permettent d'entrer en contact avec Dieu. Les vertus morales guident notre agir, mais les vertus théologales, elles touchent Dieu au cœur. Elles nous permettent de toucher Dieu. Donc nous recevons les vertus théologales et le Saint-Esprit et ses dons. Donc c'est Dieu lui-même qui nous donne de croire en lui, d'espérer en lui et de l'aimer et de vivre sous la motion de l'Esprit-Saint par ses dons. C'est tout cela que nous recevons au baptême. Deuxième point, la conversion. Notre conversion, après le baptême, elle s'inscrit dans le temps. Elle s'inscrit dans le temps. Et là, il faut accepter peut-être de modifier notre idée spontanée, habituelle de la conversion. Pour nous, la conversion, c'est un événement soudain, fracassant, ponctuel. Nous pensons à l'expérience de Paul sur le chemin de Damas ou à celle de Paul Claudel auprès d'un pilier de la cathédrale Notre-Dame à Paris ou de Charles de Foucault, touché par la grâce dans une confession à l'église Saint-Augustin. Cela arrive, bien sûr, des conversions fracassantes. Il y a vraiment un avant et un après. Mais la conversion n'est pas que cela. Elle est aussi une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui est pour tous, pas seulement pour quelques-uns. Nous sommes tous appelés à la conversion. L'Église, d'ailleurs, est en permanente conversion. On emploie une formule latine, « semper reformanda », c'est-à-dire l'Église doit sans cesse se réformer. On voit bien ce que ça veut dire, surtout en ce moment, avec toute la question des abus sexuels. On voit bien combien l'Église, comme corps constitué, a besoin de se sanctifier, de se réformer, et dans chacun de ses membres aussi. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, est évoqué très clairement ce combat spirituel après le baptême. Il est dit ceci au numéro 1426. La vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché qu'on appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne. Dans le combat. Aidé par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. Et donc, le texte est fort. Il emploie bien le mot « combat ». Nous avons un combat à mener. Nous ne pouvons pas nous dispenser de nous convertir continuellement et d'affronter, non pas tous les jours, mais de manière assez fréquente, des combats spirituels. Ce serait se bercer d'illusions. Ce serait se contenter d'une vie chrétienne aseptisée, incolore, inodore et sans saveur. Or, nous le savons bien, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Donc, c'était le deuxième point. La conversion, un processus qui s'inscrit dans le temps. Troisième et dernier point, accepter, vivre et gagner le combat spirituel. Si le combat spirituel est une réalité incontournable de la vie chrétienne, il nous faut l'accepter pour pouvoir le vivre et enfin le gagner, car en définitive, il s'agit bien de gagner le combat spirituel. Tout au long de notre vie, bien sûr, déjà, et puis le combat ultime de notre agonie. À la maison Saint-Thomas, dont je suis l'aumônier, je suis témoin, assez souvent, de l'ultime combat en fin de vie. Et je vois, assez souvent, combien pour certaines personnes, il y a un vrai combat. Il y a un vrai combat qui est difficile, qui est douloureux. Ce n'est pas facile de lâcher. Ce n'est pas facile de se dépouiller, de décrocher, d'accepter de s'abandonner pour vivre sa dernière Pâque et entrer dans les bras du Seigneur. Il y a quelques jours, une infirmière des soins palliatifs me disait « Mon père, allez voir M. Raphaël Kalemala, il n'arrive pas à partir. » Il n'arrive pas à partir. Alors je suis effectivement allé le voir, puis je lui ai proposé le sacrement des malades, maintenant il est parti. Je pense que la grâce du sacrement des malades, même s'il n'était plus conscient, l'a aidé à partir, à s'abandonner. Donc, il s'agit de prendre les armes du combat spirituel telles que nous sont très bien décrites par saint Paul dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Je ne vais pas reprendre ce texte ici, puisque mon enseignement n'est pas biblique, c'est l'enseignement de l'Église, mais je fais référence quand même à ce texte majeur qu'il nous est bon de relire régulièrement. C'est la fin du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. Et puis, il nous faut aussi contempler longuement Jésus à Gethsémani, car Jésus à Gethsémani vit un combat décisif, et il le gagne, il le gagne. Alors, pourquoi, en vue de quoi faut-il combattre ? Tout simplement pour s'attacher au bien, pour grandir dans les vertus théologales. Donc il faut voir le combat spirituel de manière positive. Il nous fait grandir, mûrir dans notre vie chrétienne, même s'il est rude parfois. Donc, en vue de quoi ? Eh bien, c'est pour grandir. Ensuite, quand et où le combat spirituel ? Eh bien, dans tous les états de vie. Le combat n'est pas seulement pour les moines. Le combat n'est pas seulement pour les adultes. Il y a des adolescents, il y a des enfants parfois, qui vivent des combats spirituels, adaptés à leur âge, mais de vrais combats spirituels. Et il y a des parents parmi nous qui pourraient en témoigner sûrement. À toutes les étapes de la vie aussi, mais plus ou moins. On n'est pas toujours dans le combat, mais il y a des constantes. Au moment d'un choix de vie, avant et pendant un engagement apostolique, avant de venir à la soirée de l'école des témoins, ce soir. Il y a eu, pour tel ou tel, du combat spirituel, c'est certain. C'est très vraisemblable. Il y a aussi parfois du combat après avoir vécu un temps de grâce. Ça, personnellement, j'en fais parfois l'expérience. On a vécu un temps très fort, un temps béni, et il y a du combat après. Je termine. Donc, apprendre à reconnaître dans notre vie le combat spirituel, il n'est pas inné, il y a un apprentissage à faire, de l'accepter Il y a souvent du combat pour accepter de combattre. Non, Seigneur, pas cette nuit, je suis fatigué, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Si, par amour, accepte, à genoux, prends ton petit livret, délivre-nous du mal, ça va t'aider, délivre-nous du mal. Ce sont des prières qui peuvent t'aider à franchir ce combat spirituel. Prends de l'eau bénite, éventuellement. Et puis, demande le secours d'en haut, écoute ma parole. Et puis enfin, appuie-toi sur les anges, les saints, la Vierge Marie.